Po. Ici on vit la galère, mais ça n'a pas l'air. Big up à Radio Galère. Yes, I. De ou de la paix depuis Wemtenga, Burkina Faso.
C'est la fleur d'oranger, ça représente bien Marseille et le four des navettes qui est là-bas à la rue Seine. Du coup, c'est un produit de chez nous.
En bon gourmand qu'il est, il a bien résumé. Pour moi, ça serait plus les trajets quotidiens dans Marseille, justement, qui relie, qui fait notre petit quotidien, justement, la navette.
Bah, c'est bien un biscuit,
la navette. C'est trace de la blancarde.
Biscuit, marseillais, avec du Nutella dedans, des fois. Voilà.
Marhaba bikoum. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord de la navette. Il y a un mois, vous aviez peut-être écouté le reportage réalisé dans une classe de langue arabe au Collège Saint-Mauron. Aujourd'hui, comme promis, nous nous arrêtons au port à Jouni, Dar el-Mina el-Asfar, une maison d'édition située dans le premier arrondissement de Marseille. Le port à Jouni propose de beaux albums bilingues, arabe-français ou français-arabe, comme vous voulez, à destination des enfants, mais pas seulement, car la dimension poétique des ouvrages transporte petits et grands. Je suis allée rencontrer Mathilde Chèvre, la fondatrice de cette maison d'édition, dans son atelier, l'Atelier des Héros. Elle nous parle du projet à l'origine du port à Jouni, de ses albums, des auteurs et de leur démarche artistique. Et puis de son parcours d'autrice, d'illustratrice, d'éditrice. Je vous propose d'écouter cet entretien en deux parties. Tout de suite, sans plus attendre, Apprendre l'arabe épisode 2, le port à Jouni, partie 1, c'est parti. Il faut se mettre sur le bord du vieux port à Marseille, raconte Mathilde Chèvre. Les pieds dans l'eau, à attendre la fin de la journée. Et là, surtout s'il a plu, il y a un moment où tout devient jaune.
Il pleut sur Marseille, le port a Jouni.
Ça aurait pu être le point de départ d'un poème. C'est aussi celui du port à Jouni, Dar el-Asfar. Créé en 2015 par Mathilde Chèvre, la maison d'édition est le fruit de plusieurs histoires. Et comme toutes les maisons d'édition, nous dit-elle, le projet éditorial ressemble aux personnes qui les fondent. La langue française, c'est la langue maternelle de Mathilde. La langue arabe, c'est celle qu'elle a apprise. Elle la compare à une grande prairie parfumée dans laquelle elle n'a jamais cessé de se promener. Avec passion, elle et ses auteurs tissent des liens entre ces deux langues, l'arabe et le français et l'arabe. Mathilde Chèvre, fondatrice de la maison d'édition Le Port à Jouni.
C'est une maison d'édition qui est basée sur l'idée de mettre, de publier des livres pour enfants et de la poésie. Bilingue, en arabe et en français, en mettant donc ces deux langues toujours ensemble, le français et l'arabe. Et le point de départ, c'est de se dire que l'une s'écrit de droite à gauche, l'autre s'écrit de gauche à droite. Et comment faire pour qu'on puisse faire des livres qui n'ont pas un seul sens de lecture, qui n'ont pas un bon et un mauvais sens de lecture, ou un endroit et un envers, mais qui jouent avec ces deux langues qui se croisent et qui font comme un tissage.
Comment faire, par exemple?
Alors, je vous laisse réfléchir et puis vous m'écrirez pour me faire des propositions. كل يوم يركض طارق خلف دولابه الصغير Innaha l'ubatuhu al-mufaddala. Tous les jours, Tarek court après sa roue, c'est son jeu préféré. On est dans un livre qui se lit comme un calendrier. Et puis, dans ce livre-là, la roue de Tarek lui échappe. Un jour, en tout cas, elle court plus vite que lui, et il part à sa recherche. Et au fur et à mesure qu'il cherche, le livre tourne. Une première fois, on lit dans le sens français, ensuite on revient dans le sens calendrier, ensuite on lit dans le sens arabe, ensuite on revient dans le sens calendrier. Et on fait tourner comme ça dans tous les sens ce livre, comme une roue qui tourne, et les enfants ne s'y trompent pas. Ils lisent l'image et ils tournent et ils retournent au gré du chemin. C'est une solution.
Et pourquoi c'est important de ne pas avoir de sens de lecture ?
Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est qu'un sens de lecture, ça va avec un héritage d'apprentissage. Quand on dessine et quand on écrit dans le sens où on a appris à lire et à écrire. Et en soi, c'est un voyage et c'est un déplacement de soi dans son habitude de lecture. Et du coup, aussi, plus que dans l'habitude de lecture, dans ce qu'on lit. C'est-à-dire que le simple fait de lire dans l'autre sens, ça dépayse et ça amène à un déplacement de soi. Mais aussi parce que j'avais observé que dans les pays où les langues où les gens sont bilingues, de toute façon ils sont majoritairement bilingues les gens dans les pays arabes, mais je parle en particulier du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et du Liban où les gens sont pour des raisons d'héritage historique plutôt francophones. Les maisons d'édition qui font des livres français, arabes en général, font deux versions du livre. Donc, soit deux livres différents, une en français, une en arabe, chacun se lisant dans le bon sens. Ou alors, elles font deux versions du livre dans le même livre, et alors les deux livres sont reproduits, les images et le texte, si vous voulez, sont reproduits deux fois. Une plutôt vers la droite, une plutôt vers la gauche. Et les deux livres se retrouvent au centre, un peu comme un choc. Et le simple fait d'utiliser le mot tissage, c'est pas un hasard. J'aime bien l'idée qu'on puisse tisser les langues, y compris à l'intérieur de soi, comme un tissage. Il y a des choses qu'on arrive beaucoup mieux à dire en arabe, et il y a des choses qu'on arrive à dire beaucoup mieux en français, quand on parle les deux langues. Il y a, pour moi, personnellement, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est sensoriel et poétique, j'arrive beaucoup mieux à le dire en arabe, et tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est psychologique, je n'arrive à le dire, ce qui est psychologique en particulier, je n'arrive à le dire qu'en français, où j'ai eu beaucoup de mal à le dire en arabe. Et le fait de mettre les deux langues ensemble, c'est aussi une façon, et de ne pas choisir un seul sens de lecture, c'est aussi en soi une revendication, mais tacite, de la richesse que c'est d'avoir plusieurs langues à l'intérieur de soi. L'ensemble de la ligne éditoriale du Port à Jauny qui est, on pourrait la résumer en disant de traduire, et en arabe, traduire, ça se dit, aujourd'hui ça se dit tarjama. Tarjama, c'est le terme actuel, mais des fois on trouve le terme naqala comme terme pour dire traduire. Et naqala, ça veut dire, aujourd'hui, ça veut dire transporter, ça veut dire, c'est le naql, c'est tous les transports en commun, tout ce qui est, et donc traduire, c'est bien ça, c'est partir en voyage et se déplacer. Et traduire, et c'est là que je réponds enfin à votre question, traduire, c'est aussi tisser ce lien de façon un peu plus ténue et de façon un peu plus subtile. Et pour moi, ça veut dire avoir un lien avec la poésie arabe. Alors là encore, si on parle de poésie arabe, vous allez me dire oui, mais on retrouve la même chose dans la poésie japonaise peut-être. Oui, oui, sans doute. C'est ça qui est plaisant dans le fait de se promener dans la prairie fleurie de la poésie, c'est qu'on y retrouve des thèmes communs. Et parmi les thèmes de la poésie arabe, en particulier celle de l'anté-islam, de avant l'islam, la poésie du désert, il y a des thèmes qui, moi, m'ont beaucoup marqué quand je les ai découverts en apprenant cette poésie pendant mes études d'arabe. Et c'est des thèmes de proximité entre l'homme et la nature. C'est le fait que le corps de l'être humain et l'humain soient un élément parmi les autres. C'est des thèmes de frottement entre les matières, les vents sur les sables, l'orage, la cavalcade, la course folle d'un cheval sous la pluie, les pleurs du poète sur les traces. Donc il y a toutes ces thématiques, bien sûr, qu'on retrouve ailleurs, mais qui sont très puissantes et qui sont encore très présentes dans la poésie contemporaine aussi, d'ailleurs. De la mémoire, de l'évocation de l'être aimé, de la convocation de la mémoire par des objets. Et là, on pense à une poésie, dans les poèmes contemporains, un de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien du XXe siècle, raconte le moment où il fait son café. Donc toutes ces thématiques, et comment est-ce qu'au moment où il fait le café, il se souvient de... Il y a toute une mémoire qui lui revient. Donc tous ces thèmes-là, ben, c'est des thèmes qu'on peut très bien explorer en faisant écrire des poètes contemporains, qu'ils soient d'un des pays arabes ou qu'ils soient français ou même qu'ils soient roumains, ou même qu'ils soient turcs. Et c'est là que la question du tissage revient encore, et que le tissage, c'est quelque chose qui ne pose pas la question de l'identité, mais qui pose la question des cultures. Comment est-ce qu'on peut faire se croiser des cultures? Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un passeport et une pièce d'identité pour dire si on est un vrai arabe ou un vrai français. Fondateur pour la maison d'édition, c'est le premier livre de cette collection de poèmes, parce qu'au Port à Joni, il y a une série d'albums, et puis maintenant, depuis 3 ans, il y a cette série de recueils de poèmes qui est comme des cahiers Moleskine, des cahiers à dessin, avec un bord arrondi et très peu de pages. Ça ressemble à un cahier un peu intime, ou un cahier de voyage, un carnet de voyage. Et le premier livre de cette série, c'est un livre qui s'appelle « Poèmes en paysage » et qui a donné un peu le ton, parce que je l'ouvre dans le sens français, je vois une couverture écrite en français, une double page qui présente les auteurs et puis une page de titre en français. Et si je l'ouvre dans le sens arabe, ce qui est normalement la quatrième de couverture en français, je vois marqué Ash'ar al-Khukul, poèmes en paysage, je vois la présentation des auteurs en arabe, et puis une page de titre à nouveau. Et puis là, les poèmes s'égrènent.
La géante. La géante a mangé 2 grives prises dans le givre. Elle a croqué, tout à trac, un bloc de granit. Elle a dévoré de vieux troncs délavés par l'hiver. Elle a avalé toute l'eau de la rivière, les poissons avec. Le repas fini, repu, la géante aspire au repos. Alors lentement, elle s'allonge sur le flanc et sa tête, ses épaules, ses seins et ses hanches forment à l'horizon une nouvelle chaîne de montagnes.
العملاقة. أكلت العملاقة طائري السم اللذين علقا في الثلج وقدمت فجأة لوحة من الرخام والتهمت جذوع أشجار عتيقة غسلها الشتاء وابتلعت كل مياه النهر ومعها الأسماك جميعا. لقد انتهت الوجبة وها هي العملاقة متخمة تبحث عن بعض الراحة فتستلقي ببطء على جنبها مكونة في الأفق برأسها وكتفيها وصدرها وأردافها سلسلة جبال جديدة.
Ce texte-là, il a été écrit à partir d'une gravure qui existait déjà, qui est une gravure de Clotilde Staes, qui vit en Ardèche, et où on voit un corps qui fait paysage, un corps comme un paysage. Et moi, quand j'ai vu ça il y a 4 ans, je me suis dit, mais il y avait un lien évident entre cette poésie du désert que je venais d'apprendre par cœur et ce dessin-là. Et donc j'ai confié cette écriture à Géraldine Heredia. Bah, c'est pas un vrai livre arabe, ça. Géraldine Heredia, Clotilde Staes, c'est pas un livre arabe. Voilà, c'est là que, pour moi, c'est un livre qui a un lien avec la poésie arabe et c'est suffisant.
Safara, voyager, traverser les montagnes et les mers pour voir ce qui se fait ailleurs. Nakala, transporter, transporter des livres de valise en valise, faire remonter des images et des idées jusqu'au port de Marseille. Géraldine Heredia, Nathalie Bontemps, Jana Traboulsi, Salah Elmour, les auteurs du Port à Genis viennent d'horizons différents. Mathilde a rencontré certains d'entre eux au gré de son parcours d'illustratrice et de doctorante. Résidant alors en Égypte et en Syrie, elle écrit une thèse sur les livres pour enfants dans les pays arabes et pendant ses années de doctorat, elle fait la connaissance de plusieurs auteurs. Quand elle entre dans une librairie et qu'elle parcourt les livres, elle est attentive aux histoires d'amour, aux détails du quotidien, à l'histoire des objets, aux liens entre l'homme et la nature. Et parfois, ce sont ces univers graphiques et littéraires qui viennent directement à elle. Ici à Marseille, comme c'est le cas de l'auteur égyptien Walid Taher.
Il est arrivé avec 40 dessins dont il me dit j'ai dessiné, j'ai fait une série de créatures imaginaires, créées, réalisées. Je lui dis, ouais, alors elles étaient vraiment très très belles. C'était une série d'images qui sont des images numériques. C'est pas du tout des dessins faits à la main, c'était tout fait à la tablette graphique. Mais il y avait là-dedans une présence à la fois de l'homme et de l'animal, comme s'il n'était qu'un. Et en voyant ces créatures, je me suis dit, ah, elles ressemblent vraiment à Pomelo, qui est un éléphant rose, qui est une grande star de la littérature jeunesse contemporaine, qui est le fils de Benjamin Shaw et Ramona Badescu. Ramona Badescu, qui habite à Marseille, et qui écrit les aventures de cet éléphant rose qui vit sous un pissenlit et qui se pose beaucoup de problèmes existentiels. Et j'ai vu, là, on ne sait pas trop pourquoi, on fait des liens entre les choses, le lien est souvent intuitif avant qu'on puisse l'expliquer, j'ai vu un lien entre ces dessins de Walid Taher et l'écriture de Ramona Badescu. Donc on a proposé à Ramona d'écrire à partir des 40 créatures imaginaires de Walid Taher. Là, elle a dit oui, d'abord. Et puis ensuite, elle a dit, mais pour moi, ce ne sont pas du tout des créatures imaginaires. Ce sont des idées. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre sur les idées. D'où viennent nos idées? Et alors, elle a écrit un livre qui s'appelle « Mes idées folles ». Banat Afkari, qu'on peut écouter sur le site du Port à Genis, qui a été enregistré par Catherine Vincent, un groupe de Marseille. dans une mise en scène sonore qui est très 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 belle avec Mohamed Arrachi, qui est un acteur syrien qui dit le texte en arabe, et Vincent Comaré qui dit le texte en français. Et donc elle a écrit ce livre, Mes idées folles, qui est un livre comme une pièce de théâtre qui raconte l'arrivée des idées comme un troupeau d'enfants sauvages qui arrivent dans votre tête et qui envahissent tout, et puis on aimerait bien les ranger, alors elle les range dans des cahiers, elle les range dans des livres, elle les met sur des étagères, et puis hop, les idées se remettent à sauter de partout, elle pousse des cris, elle monte sur le canapé, on en voit même une sur le bord d'un robinet, voilà. Et a priori, les illustrations de Walid Taher n'étaient pas destinées à ça. Elles étaient plutôt destinées à un texte assez, je ne sais pas, ce qu'on aurait pu en faire d'autre. Mais en tout cas, on aurait pu écrire un autre livre, ça c'est sûr.
Banat ou Afkari.
Mes idées folles.
فكرة حمراء.
Une rouge.
فكرة بسيطة.
Une simple.
فكرة معقدة.
Une compliquée.
فكرة حزينة.
Une triste.
فكرة مستعجلة.
Une qui bouscule, un peu pressée.
فكرة ترقص.
Une qui danse.
وفكرة محطمة.
Une brisée.
ما كل هذه الأفكار المبعثرة؟
Mais quel bazar, toutes ces idées!
تأتي دون أن تخبر أحدا.
Elles arrivent sans prévenir.
بنات أفكاري المجنونة.
Mes idées folles.
كما لو أنها قطيع.
En troupeau.
بنات أفكاري المجنونة.
Mes folles idées.
هائجة تعدو.
S'agite, galope.
تضرب بأجنحتها.
Bat des ailes.
تغضب وتخور.
Queen, meugle.
ما يكاد الباب أن يفتح. حتى تتدافع لتدخل.
À peine la porte entrebâillée, elle se bouscule pour entrer.
Mathilde me parle d'un livre qui est fondamental dans l'histoire du port à Joigny, le carnet de l'illustrateur. C'est l'histoire de Mohyeddine Al-Abad, grand illustrateur égyptien de la fin du XIXe siècle et décédé en 2010. À travers cette autobiographie graphique, on apprend comment Mohyeddine est devenu illustrateur, avec quel héritage visuel, culturel, il grandit. Petit, il adorait collectionner des cartes postales du souk de Hasbekia. Page numéro 5. Son père lui offre un carnet à dessin en lui disant « Tu ne feras pas n'importe quoi à l'intérieur ». Donc, il n'a jamais rien dessiné dans ce carnet-ci. Mais cela ne l'a pas empêché de rêver à tous les dessins qu'il aurait pu entreprendre. Il admire Alice au Pays des Merveilles, les fables de Kalila ou d'Imna, mais aussi Superman. En grandissant, il apprend le nom des couleurs et parmi elles, le rose cher. Alors étudiant en école des beaux-arts au Caire, il s'en sert pour peindre, mais ses tubes de peinture viennent d'Europe, et cette couleur chair n'est pas sa couleur de peau. Cette découverte le pousse à créer ses propres couleurs. Mathilde explique que c'est cette génération d'auteurs-illustrateurs des années 60-70 qui s'est posé la question d'une image narrative ancrée dans le patrimoine visuel, narratif, graphique du monde arabe. Métis et singulier.
L'image, elle est la plupart du temps, elle est antérieure au texte, ce qui est assez peu fréquent en édition jeunesse, qu'on parte de l'image pour écrire l'histoire. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, les Roubariates ayant été écrites dans les années 60 à 75, forcément, les textes précèdent l'image. Mais en tout état de cause, ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'image ne soit pas une illustration. C'est-à-dire que l'image peut être narrative, l'image peut tout à fait être narrative et sensorielle, emportée dans une lecture qui va au-delà de ce qu'elle raconte, qui va aussi dans tout un appel aux sensations, y compris aux odeurs. Enfin, voilà, c'est une image. Elle peut être la plus... On publie peu d'images abstraites, par exemple. C'est beaucoup quand même, quand je dis narrative, elles sont figuratives, en tout cas. Et oui, elle peut très bien, ça peut très bien être une image figurative sans que ce soit une illustration. Dans le terme illustration, on entend bien qu'il y a quelque chose qui réinterprète le texte, qu'il est quelque part, en tout cas, est en lien direct avec le texte, voire explique le texte, ou voire répète ce que dit le texte. Bon, c'est pas spécifique au Porajoni du tout, c'est vraiment un mouvement qui est très ancien dans la littérature jeunesse française, que d'ouvrir cet espace entre texte et illustration, que la narration portée par le texte et celle portée par l'image soit distante en tout cas, ne soit pas redondante. Et moi, au Porajoni, j'essaye de faire qu'elle soit le plus éloignée possible, tout en étant en lien. Et ce grand espace, là, je suis en train d'écarter de plus en plus mes mains. Au départ, elles étaient liées, puis plus ça va, plus je les écarte l'une de l'autre. Et tout cet espace qui est au milieu, ben, au final, c'est l'espace de mon corps, et c'est l'espace où je suis, moi. Et c'est cet espace-là, l'espace du lecteur. Et c'est certainement vraiment pas un hasard que, pour moi, littérature jeunesse et poésie soient ensemble. C'est des univers qui laissent un grand espace. Bon, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'un roman aussi, quelque part, même un livre d'analyse intellectuelle laisse un grand espace. Mais en tout cas, être lecteur, c'est ça. C'est l'endroit où notre corps, où on prend notre place dans cet espace blanc et où le livre devient parce qu'on le lit.
ضباب ومطر. اليوم لم يعد هناك جبال. لم يعد هناك هضاب. حتى أشجار الصنوبر لا نراها. اليوم هو يوم ضباب ومطر. هو يوم لا نرى فيه الحقول. في الشارع تبدو الواجهات القرميدية وألوان أوراق القيقب الخريفية كأنها أولى الخطوط الملونة في لوحة لن ينهيها الرسام.
Apprendre l'arabe, épisode 2, partie 1, le Porajoni. Lecture sonore de Catherine Vincent. À Marseille, vous pouvez retrouver les livres du Porajoni à la librairie La Réserve à Bulles, à Histoire de l'œil dans le 6e arrondissement, à l'Hydromille Tête dans le 1er et à la librairie du Mucem. Puis grâce aux diffuseurs et distributeurs de la maison d'édition Le Porajoni, Les Belles Lettres, vous pouvez commander les livres dans n'importe quelle librairie. Ici et ailleurs, dans le monde arabe. Il existe aussi quelques réseaux de distribution, 4 librairies au Maroc, une à Beyrouth, la librairie Belsem au Caire. Je vous invite à écouter la suite de cet échange avec Mathilde Chèvre dans une deuxième partie de cette même émission, juste après une courte pause musicale. Nina Abdelmalek, Insa El Lirah.
انا قبلك يا حبيبي خانتني الايام وعلي لا ما تخبي بعيونك كلام عاشق انت يا قلبي ودايب بالغرام دايب بالغرام قبلك يا حبيبي خانتني الايام وعلي لا ما تخبي بعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام دايب بالغرام ما سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي وأنا دايما مشتاق دايما مشتاق طارت هالليالي شغلوني العشاق ما سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي وأنا دايما مشتاق دايما مشتاق
Toujours à l'écoute de Radio Galère 88.4. Nous retrouvons Mathilde Chèvre, fondatrice du Port à Jauny, dans cette seconde partie de l'émission où elle revient sur son parcours jusqu'à la fondation de la maison d'édition. Apprendre l'arabe, épisode 2, partie 2, le Port à Jauny.
Je me souviendrai toujours du premier matin au Caire, toujours. C'est un moment, je me souviens très bien de la sensation de « une nouvelle vie commence ».
L'histoire du port à Jauny, c'est aussi celle d'une passion, celle de la langue arabe. Avant de fonder le port à Jauny, Mathilde Chèvre a enseigné l'arabe à l'université d'Aix-Marseille, à l'endroit même où elle l'avait appris quelques années auparavant.
Il y a un très bon cursus d'apprentissage de l'arabe à Aix-en-Provence. Et dans les premières années, dans les premiers mois où on commence ses études d'arabe, on découvre qu'on a la possibilité de demander des financements pour partir étudier dans les pays arabes, chose que j'ai faite. Après, tous les gens qui... Ces études amènent à beaucoup de choses. Dans les gens que j'ai croisés sur mon parcours, il y a des gens qui sont devenus ambassadeurs de France en Irak. Certains pourraient considérer ça comme une réussite. Et d'autres qui sont devenus des grands auteurs. Mathias Sénard a fait exactement le genre de parcours que j'ai fait. Et qu'on est nombreux à avoir fait, je veux dire. Et puis, il y a beaucoup de gens qui deviennent... Il y a tout ce que Actes Sud... Beaucoup de gens qui sont traducteurs chez Simbad Actes Sud aujourd'hui sont des gens qui ont été formés par les études arabes. Et puis c'est quand même des études qui permettent, qui invitent, vraiment, je me souviendrai toujours de cette femme qui s'appelle Claude Audebert, qui était notre professeur d'arabe à l'époque, et qui disait « Allez, c'est pas en France qu'on va apprendre l'arabe, hein, allez, hop, oust, de l'air allez apprendre, allez marcher, allez vous promener dans les rues, là, allez !» Et elle nous envoyait, elle disait ça, et non seulement elle disait ça, mais elle avait mis en place avec d'autres... tout un réseau de centres d'apprentissage de l'arabe en Égypte et en Syrie et au Liban et à Ramallah et jusqu'en Irak aujourd'hui et en Tunisie et au Maroc. Mais quand on est dans les premières années d'arabe, ils nous envoient vers le Moyen-Orient pour qu'on soit un peu dépaysé, parce qu'on le serait différemment dans le Maghreb. Et puis après, quand on avance, après toutes les personnes, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait d'avoir accès à la langue arabe, c'est ça en fait le point de départ de tout. C'est d'arriver à lire et à écrire. C'est d'avoir accès à la langue, de pouvoir lire et écrire. Et c'est essentiel. Et ça l'a été pour moi dans ma vie. Ça a été une vraie renaissance quand je me souviens très toujours du premier matin au Caire, toujours. C'est un moment, je me souviens très bien de la sensation de « une nouvelle vie commence ». Et je suis sûre que les étudiants et les étudiantes qui aujourd'hui ont accès à apprendre les premiers pas en langue arabe ont cette sensation-là. Et en particulier, il n'y a pas besoin bien sûr d'être d'origine, comme on aime à dire en France, j'adore ce terme « d'origine » parce qu'au bout de 4 générations, on est toujours « d'origine », entre guillemets. Mais tant qu'on a une gueule d'arabe, on est d'origine. Et quand on enseigne, j'ai enseigné pendant 2 ans à l'université à Aix-en-Provence, à la fois la langue et la littérature arabe, et on voit l'émotion que ça génère chez les gens, qu'ils soient ou pas d'origine. Ça, c'est comme les cartes d'identité. Est-ce que c'est, on est des vrais, des faux arabes? Je suis une vraie arabe, moi, Bahki Arabi. Je suis une vraie arabe de parler arabe, ou quel est le critère en fait d'être un arabe ou d'être un français d'ailleurs? C'est ça, souvent il faut inverser les propositions, et là tout d'un coup vous vous rendez compte que c'est horrible ce qu'on renvoie à l'autre. Mais d'avoir accès à la langue, on voit sur ces étudiants et ces étudiantes en particulier, il y a plus de filles que de garçons, mais c'est une vraie, véritable réconciliation du puzzle. Vraiment, j'ai un souvenir très frappant de voir des jeunes filles émues et pleurer d'émotion parce qu'elles commençaient à lire et à écrire et qu'elles y arrivaient. Elles avaient accès à un poème de Mahmoud Darwish, par exemple, encore, ce poète palestinien. Je cite lui parce que comme ça, il y a pas mal de chances que les gens le connaissent. Et en vis-à-vis, ce vers-là de Mahmoud Darwish leur évoquait un passage du Coran. Et puis la question que posait ce vers aussi évoquait des questions philosophiques. Et tout d'un coup, ces filles, elles avaient tout leur parcours scolaire français, toute leur formation coranique en mosquée, puisque la France laisse le privilège aux mosquées d'enseigner l'arabe. Et tout d'un coup, là, à l'université, elles apprenaient de la poésie. Moi, je leur faisais apprendre par cœur cette fameuse méthode très répressive qu'on réfute dans l'enseignement français. Et je ne mets pas ça en question. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut à la fois développer l'esprit critique et la jubilation d'apprendre par cœur des textes et de les dire, que ce soit en français, en arabe ou dans d'autres langues. Il y a une véritable jubilation dans le fait d'apprendre par cœur des textes et des poèmes et de les déclamer. Voilà. Et ce vers-là de Mahmoud Darwish, c'était, j'ai envie de le dire, ça venait de Ila Ummi, qui veut dire à ma mère, et Ahinnu ila khubz ummi, ou qahwati ummi, ou lamsati ummi, ou a'shiq wa amri li anni iza muttu akhjalu min dam'i ummi. A'shiq wa amri yawman ala sadri yawmi. J'ai la nostalgie, ça a été traduit par Elias Samba. J'ai la nostalgie du café de ma mère, قهوتي أمي ولمسة أمي, les caresses de ma mère, le pain de ma mère, le café et les caresses de ma mère, et je chéris ma vie jour après jour, car si je mourrais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Et ça, le vers dont je parle, c'est Yaouman Arla Sadri Yaoumi, qui mot à mot veut dire un jour sur la poitrine de l'autre. C'est une histoire que j'adore raconter. Et la poitrine dans le sens du sein de materne, enfin du sein de la femme, l'image à la fois de la poitrine, et puis comme si le jour se couchait sur les seins comme ça. Et puis les filles, elles me disent oui, mais on dirait aussi des dunes, ce qui est tout à fait vrai. Et puis tout d'un coup, il y a cette jeune fille là en question qui dit aux autres, mais c'est comme dans le vers. Moi, le verset, j'ai pas de formation coranique, donc je me souviens pas. Mais elles avaient tout à fait repéré que c'était Yaouman Arla Sadri Layl, un jour qui se couche sur le sein de la nuit. Et elles le savaient que c'était ça dans le Coran. Et alors, elles, tout d'un coup, elles intuitaient, il n'y a pas eu besoin de l'expliciter plus que ça, que oui, bien sûr, Mahmoud Darwish lui aussi connaissait le Coran. Et oui, bien sûr, elles se situaient dans la filiation d'un nombre immense de gens qui à la fois connaissaient le Coran et de la poésie, et que le Coran c'est aussi une poésie. Aussi. Je n'ai pas dit que c'est de la poésie, j'ai dit que c'est aussi une poésie et que ça peut être lu à titre littéraire aussi, parce que c'est un très beau texte.
إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي أحن. إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي, وتكبر في طفولة يوما على صدري يومي وأعش.
Mais vous, en fait, c'est à travers la poésie notamment que vous avez découvert la langue arabe et que vous avez dit ah, je veux apprendre cette
moi,
langue.
J'ai découvert la poésie en arabe. Je lisais jamais de poésie. C'est depuis que j'en lis. C'est depuis que Gaston Miron, je trouve ça magnifique. Mais avant Gaston Miron, je trouvais pas ça magnifique. Je connaissais pas de toute façon. Et c'est vraiment parce que on est tellement préoccupé de constituer cette chaîne absurde et restrictive de premier maillon de la chaîne arabe, deuxième islam, troisième islamiste, quatrième terroriste, qu'on est tellement occupé à tisser, à emmêler ces mailles-là, qu'on oublie complètement de parler, mais de se parler à nous-mêmes. Hein. Et de parler aux gens d'autre chose, mais je dirais autre chose. Ce que être arabe veut dire, c'est tellement beaucoup, évidemment que c'est plus vaste, c'est quand même le comble d'avoir à le dire, que c'est plus vaste que c'était, et d'ailleurs dans chaque élément de la chaîne aussi c'est plus vaste qu'un mot, quand bien même arabe égale islam, ce qui est déjà une absurdité, mais islam égale beaucoup plus vaste que islamiste, et islamiste veut dire encore plus vaste que terroriste, et puis terroriste veut dire beaucoup plus que islamiste en l'occurrence. Bon, c'est pas du tout le sujet du porc à jaunir. Justement, le sujet du porc à jaunir, c'est d'essayer de proposer autre chose que cette chaîne là et de lier ce que être arabe veut dire à une création artistique et poétique. Mais c'est par l'arabe que j'ai découvert ce qu'était la poésie, parce que c'est un genre absolument majeur, et qu'il y a une immense poésie arabe. Encore aujourd'hui, les gens écrivent énormément de poésie et ils la déclament. Et quand j'habitais à Damas jusqu'en 2011, il y avait des rencontres, des soirées organisées, publiques, hein, des soirées avec des joutes oratoires, des joutes poétiques, y compris des amies françaises à moi qui avaient écrit un texte en arabe et qui venaient le déclamer.
En 2015, une nouvelle aventure commence pour Mathilde avec Le Port à Jauny. Une maison d'édition, c'est une démarche artistique, des auteurs, des lecteurs, mais aussi un imprimeur, des librairies. Mathilde est illustratrice, autrice et éditrice.
Les livres publiés en France ont un coût de réalisation qui fait qu'ils ont un prix absolument rédhibitoire pour le monde arabe. Donc ils sont trop chers, en résumé. Et pourtant, Le Port à Jauny a une ligne, je le dis maintenant parce que je ne voudrais surtout pas oublier de dire ça, a une ligne une relation à l'impression des livres qui est très spécifique, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on soit beaucoup d'éditeurs à imprimer dans la ville, à imprimer dans la ville où on vit. Et moi, grâce à CCI, qui est une imprimerie qui est à Marseille, à côté des Arnavaux, ben j'imprime tout à Marseille. Et du coup, ben je me forme aussi au métier d'éditrice, parce qu'on peut avoir fait des études d'art plastique et des études d'arabe, on n'est pas forcément pour autant éditeur. On a beau savoir faire les maquettes des livres, on est encore moins éditeur. Et vraiment, toute l'équipe de CCI fait partie, en fait, du projet de la maison d'édition. Parce qu'ils me conseillent sur les papiers, ils sont super investis, ils lisent tous les livres, ils me font des retours élogieux en général, ils sont enthousiastes. C'est une imprimerie super où ils sont chacun à leur poste. Bien qu'imprimant à CCI, on arrive à sortir des livres à des prix corrects. Les cahiers de poésie font 9 euros, mais 9 euros pour un Égyptien, c'est énorme. Donc le travail qu'on est en train d'essayer de faire avec Walid Taher, lui il le fait en Égypte, moi j'essaye de le faire sur le Maghreb plutôt, c'est de trouver des éditeurs partenaires, des éditeurs dont certains titres pourraient nous intéresser et dont certains de nos titres pourraient les intéresser et qui reprendraient nos droits. Ou alors on fait juste un échange. Enfin, il y a plusieurs possibilités, ça c'est du détail, c'est de la cuisine éditoriale. Mais j'aimerais, et on est en train de travailler à ça, parce que j'aimerais que les livres vivent pays par pays, en étant réédité par un éditeur local, enfin national.
Et comme Le Port à Jauny tisse des liens entre plusieurs pays, la maison d'édition donne aussi une visibilité supplémentaire à certains auteurs du monde arabe, pour lesquels il est parfois plus difficile d'exercer le métier d'illustrateur. C'est le cas de Walid Taher, auteur égyptien qui a gagné le prix de l'illustration à Beyrouth l'année dernière. Cette reconnaissance, explique Mathilde, apporte une légitimité artistique aux auteurs et place aussi Le Port à Jauny dans cette tradition de narration graphique du monde arabe. Le Port à Jauny, associant lui-même à cet ensemble de créativité, sa propre démarche artistique où les cultures se mélangent avec des auteurs, poètes, illustrateurs, arabes et français. Justement, je demande à Mathilde si elle a rencontré des difficultés en tant que maison d'édition bilingue pour démarcher auprès des diffuseurs et des librairies.
Il y en a d'autres, hein. Syros le fait, les éditions du Jasmin le fait, les éditions Grandir, les éditions Lirabel en France ont fait des livres bilingues en français, en iranien, voilà, avec d'autres sens de lecture, en jouant aussi sur les sens de lecture. C'est pas une spécificité du Port à Jauny, mais c'est pas fréquent. Donc ça déjà, certains libraires, pas tous les libraires, mais quelques libraires se disent « Oh là là, c'est bilingue, où vais-je le mettre ?» Donc ça peut être une difficulté. Où vais-je le mettre? Alors certains se disent, je vais le mettre dans les livres de voyage. Bon, alors que c'est un livre, un album hein, de jeunesse. D'autres les mettent dans les livres pour I Speak English, I Love Espagnol et Le Port à Jauny. Ce qui n'a là non plus pas du tout sa place. Bizarrement, dans ces rayons-là, les livres ne se vendent pas. Par contre, quand ils sont au milieu des autres albums ou en rayon poésie, là, ils se vendent. Mais là où il y a une difficulté, plus, c'est que c'est pas n'importe quel bilingue, c'est de l'arabe. Et du coup, là par contre, on voit un peu l'écueil psychologique, sociologique, culturel dans lequel on est, politique. Moi, quand j'ai commencé à expérimenter sur moi-même avec la route Tarek, cette possibilité de faire des livres ludiques, artistiques, qui jouent sur les multiples sens de lecture. On était en 2007, bon, déjà il y avait eu les attentats du 11 septembre, tout ça, mais on n'était pas en France après 2015. Et on voit bien, et puis il n'y avait pas eu Daesh, et puis on voit bien à quel point la situation s'est crispée, la perception s'est crispée, à quel point le contexte international et national fait que ce que être arabe veut dire pose quand même à certains un problème. Donc là, oui, c'est bizarre parce qu'au début, moi, j'ai vraiment monté une maison d'édition avec l'idée de faire un travail artistique et poétique. Et je me retrouve très, très souvent. D'ailleurs, j'apprécie de ne pas être interrogée comme une spécialiste du monde arabe parce que je ne le suis pas. Mais je suis très souvent sollicitée sur « Alors, le voile, qu'en pensez-vous » J'en pense que je refuse catégoriquement de répondre à cette question et que la seule réponse à faire, c'est arrêter de nous prendre la tête avec le voile. Voilà. Pour moi. C'est-à-dire, je ne répondrai pas. Vous me posez la question de « Que pensez-vous du voile ?» Je vous réponds « Poésie ». Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de témoigner et de participer au fait de, c'est là encore une fois que toute l'image du tissage prend tout son sens pour moi, parce que sinon on est quand même dans un, on a suffisamment de témoignages quotidiens et de témoignages humains et de témoignages politiques pour voir que le fil est tendu, il est plutôt tendu aux deux extrêmes que tissé en ce moment. Donc ça, force est de constater que ça n'est pas réservé à personne d'avoir une petite crispation quand on sort des livres qui sont bilingues écrits en arabe. Du coup, on vit des situations complètement ubuesques. En salon du livre, une maman qui s'approche du livre parce que il est sur son c'était un livre de poésie, donc les livres, la collection Poèmes a une face du côté français écrite en français, du côté arabe écrite en arabe. Donc il était tourné côté, je ne sais pas si c'est pile ou face, disons côté français, tout court. Il était tourné côté français. Oh, que c'est beau ça, Poème en paysage, oh là là, c'est beau. Alors elle ouvre avec sa fille, et puis donc première page, tout va bien, ça reste en français. Et là, on arrive au premier poème, La Géante, que je vous ai lu. Et là, elle tape sur la main de sa fille, bim, et elle lui dit « Touche pas, c'est de l'arabe !» Et elle referme le livre, et elle fait un mouvement comme ça, comme si elle s'était brûlée avec de la soupe. Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai essayé de... Elle est partie tellement vite que j'ai même rien essayé du tout. J'aurais pu essayer de lui en lire, mais voilà, c'est le genre de réaction, on peut exploser de rire ou exploser en larmes. C'est selon. Et les gens qui étaient autour m'ont dit « Mais oui, mais il faut comprendre, on est à côté de Nice. » Et puis, il y a 2 mois, il y a eu l'attentat à Nice. Ben, moi, j'avoue que je comprends. Même avec l'explication, je ne comprends pas. Une fois que j'ai dit ça, je dis que exactement le contraire est vrai aussi. C'est parce que les livres sont bilingues et c'est parce que les gens ont conscience de l'enjeu culturel qu'il y a aujourd'hui à montrer et à lire et à entendre ces deux langues ensemble, que les livres sont particulièrement soutenus, protégés, portés par des dizaines et des dizaines et des dizaines de libraires, et que vraiment tous ces gens-là savent parfaitement ce qu'ils font et ils sont tout à fait en mesure de défendre les livres en disant on les aime pour des raisons artistiques.
Catherine Vincent. Merci beaucoup à Mathilde Chèvre pour ce temps de discussion partagée dans les ateliers du Port à Jauny. Merci au groupe Catherine Vincent pour les lectures sonores des ouvrages que vous avez pu entendre et le montage. Je rappelle que vous pouvez trouver les livres de la maison d'édition dans plusieurs librairies à Marseille, La Réserve à Bulles, L'Histoire de l'œil dans le 6e arrondissement, L'Hydromiltête dans le 1er, la librairie du Mucem. Puis grâce aux diffuseurs et distributeurs de la maison d'édition Les Belles Lettres, vous pouvez commander les livres dans n'importe quelle librairie. Je vous invite également à faire un tour sur le site internet de la maison d'édition Le Port à Jauny, qui présente les albums, et vous pouvez aussi retrouver les lectures sonores de Catherine Vincent et des actualités diverses. Et sinon, cette émission sera bientôt disponible en podcast sur le site de Radio Galère à la page de la navette, ainsi que les sources sonores de ce reportage. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et vous souhaite et vous laisse avec un dernier poème, La rivière, El Nahar.
La rivière. Rivière derrière. Derrière les peupliers. La rivière. Dans l'eau de la rivière, la truite fario. Dans l'air transparent, au-dessus de la rivière, des insectes. Ce sont des éphémères. Et si tu sais attendre derrière les peupliers, au bord de la rivière, tu verras la truite fario bondir dans l'air transparent pour gober les éphémères.
النار النار خلف خلف أشجار الحور هناك النار في ماء النار سمكة منقطة في الهواء الشفاف فوق النار حشرات عابرات حياتهن قصيرة فإذا كنت تعرف الانتظار خلف أشجار الحور على حافة النار سترى السمكة المنقطة تقفز في الهواء الشفاف لتلتهم العابرات